Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour, toujours dans notre série sur l'organisation de l'Église, se porte sur le rôle des femmes. En examinant les différentes fonctions dans l'Église, certains ont pu remarquer qu'il n'y avait pas de femmes parmi les apôtres. Il est précisé que les pasteurs ou évêques, ainsi que les diacres, doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leur famille, ce qui exclut évidemment les femmes de ces deux fonctions dans l'Église. Après tout, Paul aurait pu dire qu'il faut être une personne mariée, mais il pensait uniquement aux hommes pour ces rôles. Faut-il conclure pour cela que les hommes sont plus importants pour Dieu que les femmes? Les aiment-ils davantage? Les considèrent-ils comme ses seuls serviteurs? Loin de là. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul parle du salut de ceux qui croient en Christ. Il nous dit que ce salut ne dépend pas du tout de la loi de Moïse qui devait conduire les hommes à la foi en Christ. C'est par cette foi que nous devenons tous enfants de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Sous l'ancienne loi, la distinction entre les hommes et les femmes se voyait de plusieurs manières. L'accès au temple, les sacrifices exigés, les peines administrées pour certaines fautes, le degré de responsabilité pour les engagements, n'étaient pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Mais le salut par la foi en Christ est sans distinction de ce genre. Il est devenu clair que, malgré les cérémonies incorporées dans la loi de Moïse, Dieu a le même amour pour chaque être humain. Tous ont la même grande valeur à ses yeux. Non seulement Dieu attache autant de valeur et de dignité aux femmes qu'aux hommes, mais il exige des hommes ce même respect de la femme. En 1 Pierre 3, verset 7, il dit aux maris d'honorer leur femme, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. De plusieurs manières, la Bible nous apprend à ne pas mépriser une personne tout simplement parce qu'elle est du sexe féminin. Dans de nombreux pays, l'influence de la parole de Dieu a exalté les femmes et leur a donné une position d'honneur qui était inconnue auparavant. Au lieu de la considérer comme un être inférieur à exploiter, la Bible nous apprend que la femme est précieuse aux yeux de Dieu, puisqu'elle aussi porte l'image de Dieu. Jésus est mort pour elle aussi. Elle aussi pourra jouir de la présence glorieuse de Dieu dans l'éternité. Elle aussi peut rendre service au Seigneur dans son Église. Ayant constaté que les femmes sont très importantes pour Dieu, il faut dire que Dieu a fixé certaines limites aux activités des femmes dans l'Église. Ces limites concernent l'adoration publique et la direction de l'Église. D'abord, il n'est pas permis aux femmes de prendre la parole lors des réunions de l'Assemblée entière, lors du culte. 1 Corinthiens 14, versets 33 à 35 nous dit « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. » Le contexte de 1 Corinthiens 14 montre clairement qu'il s'agit bien d'une réunion pour l'adoration de Dieu et l'édification de toute l'assemblée. La règle concernant le silence de la femme ne s'applique pas à tout entretien religieux, puisque ce qui n'était pas permis à l'Église était bien permis ailleurs, par exemple à la maison, entre la femme et son mari. On a la nette impression, en Actes 18, versets 24 à 26, qu'une femme nommée Priscille, en s'associant à son mari, a même aidé à enseigner un homme. Mais c'était en privé. Elle n'a pas pris la parole dans l'église. Deuxièmement, il n'est pas permis aux femmes de prendre de l'autorité sur l'homme. Paul poursuit en 1 Timothée 2, versets 11 et 12 en disant « Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » L'apôtre continue en citant deux raisons pour cette loi de Dieu. D'abord, la femme fut créée après l'homme pour être son aide et non pas son chef. Et deuxièmement, la soumission fait partie aussi des conséquences du fait que la femme commit du péché la première dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas parce que la femme serait moins intelligente ou moins capable de parler en public, mais Dieu ne lui a pas donné le rôle de leadership dans l'Église. Il reste néanmoins beaucoup que les femmes peuvent faire dans l'Église. De nombreux prédicateurs ont exprimé la conviction que l'œuvre de l'Église ne peut réussir nulle part sans le soutien de femmes chrétiennes. Loin d'être superflues dans le travail de l'Église, les femmes sont indispensables. Dans bien des cas, la survie d'une assemblée peut s'attribuer directement à la fidélité et au zèle de ces femmes. Paul a plusieurs fois fait mention des sœurs en Christ qui lui rendaient service dans ses labeurs. De Saint-Tiche et Évodie, il écrit « Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi. » Philippiens 4, versets 2 et 3. Il dit que toutes les églises des païens étaient reconnaissantes envers non seulement Aquilas, mais aussi sa femme Prisca, pour le service qu'ils avaient rendu. Romains 16, versets 3 et 4. Voyons donc quelques domaines où les femmes peuvent se rendre très utiles. L'évangélisation, c'est le fait de partager avec d'autres personnes la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour évangéliser, on n'a pas forcément besoin de prêcher aux grandes foules comme le faisaient Pierre et Paul. On peut étudier la Bible avec des individus en privé. On peut distribuer des brochures ou proposer des cours bibliques. On peut inviter ses amis et connaissances à assister à une réunion de l'Église ou une séance d'évangélisation. Les femmes peuvent faire toutes ces choses et aider à gagner des âmes. Deuxièmement, il y a l'enseignement. De nombreuses sœurs en Christ ont une connaissance profonde de la parole de Dieu et la vie chrétienne. Elles peuvent enseigner. Le Nouveau Testament dit en Tite 2, versets 3 à 5, par exemple, que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Selon 2 Timothée 1, verset 5, la mère et la grand-mère de Timothée, dont le père était grec et ne connaissait pas Dieu, lui avaient enseigné la parole de Dieu. Les femmes chrétiennes enseignent non seulement leurs propres enfants, mais aussi ceux des autres. Elles organisent très souvent des classes publiques pour les enfants dans les assemblées et dans les quartiers, contribuant ainsi au bien-être de l'Église dans les générations à venir. Les femmes peuvent donc enseigner d'autres femmes ainsi que les enfants. Troisièmement, la bienfaisance. Le livre des Actes nous parle d'une femme chrétienne appelée Tabitha ou Dorcas, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Lorsqu'elle est morte et que l'apôtre Pierre est arrivé sur la scène, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Actes 9, versets 36 et 39. L'Église a toujours besoin de femmes comme Dorcas qui emploient leur temps et leur talent pour aider les autres. Certaines sœurs viennent au secours des malades, non seulement par les soins, mais aussi en préparant de la nourriture, en faisant le ménage ou la lessive, et en s'occupant des enfants. D'autres se servent de leurs moyens pour aider les plus pauvres avec leurs besoins. D'autres s'organisent pour aider les vieilles personnes dans leurs assemblées à faire des tâches difficiles. Elles ramassent des fagots pour le feu de cuisine ou donnent un coup de main au champ. Toutes ces choses glorifient notre Dieu. Quatrièmement, il y a l'encouragement. La Bible nous dit de nous exhorter réciproquement, Hébreux 10, verset 25, de consoler ceux qui sont abattus, de supporter les faibles, 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Tout le monde a parfois besoin d'un mot d'encouragement, et ce mot peut être offert par une sœur aussi bien que par un frère. Une sœur peut mettre à l'aise un visiteur à l'Église par son accueil chaleureux. Elle peut rendre visite à un membre de l'Église qui faiblit et l'encourager à revenir au Seigneur. Elle peut aller auprès d'une personne en deuil pour la consoler. Elle peut offrir des mots d'encouragement à un jeune homme et l'influencer à consacrer sa vie au Seigneur en tant qu'évangéliste. Cinquièmement, il y a les dons financiers. Tous les chrétiens sont appelés à soutenir l'œuvre de l'Église par leurs dons. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Beaucoup de femmes ont leurs propres moyens financiers grâce à un emploi, un petit commerce ou d'autres activités. L'argent gagné permet de servir le Seigneur par une participation généreuse à la collecte de chaque dimanche. En plus de cette participation, certaines femmes achètent et offrent à l'Église du matériel, tels que des livres de cantiques, des bancs, etc. Ensuite, il y a l'hospitalité. Quand il y a des visiteurs d'ailleurs, surtout ceux qui viennent assister dans l'œuvre du Seigneur, les femmes sont souvent impliquées dans les devoirs de l'hospitalité. Elles préparent les repas, chauffent de l'eau pour les bains, apprêtent la chambre et s'occupent de la plupart des besoins de l'hôte. Si elles le font de bon cœur et de manière gracieuse, c'est encore un grand service qu'elles rendent pour la gloire de Dieu. Il y a aussi l'intercession. 1 Timothée 5 parle d'un groupe de veuves dans l'Église qui était spécialement consacré à un ministère de prière. Une telle femme persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. 1 Timothée 5, verset 5. Que ce soit une occupation à plein temps ou pas, la prière est puissante. Et en la faisant, une femme juste peut accomplir beaucoup de bien. Elle peut consacrer du temps régulièrement à la prière pour son assemblée et pour les membres individuels qui la composent, pour sa famille, pour ceux qui prêchent ailleurs, bref, pour un nombre infini de sujets. Enfin, il y a diverses tâches. On ne finira pas d'énumérer tous les services que les femmes peuvent rendre dans l'Église. On n'a pas encore cité la préparation de plats pour les repas en commun à l'Église, le nettoyage et l'embellissement du lieu de culte, la garde de l'argent de l'Église, la correspondance de l'Église et un tas d'autres services. Les femmes représentent un grand réservoir de talent et d'énergie que Dieu a donné à son Église. En vérité, leurs efforts sont indispensables. Nous ne voulons point minimiser l'importance de leur rôle dans l'Église. Mais reconnaissons que l'Église n'est pas une démocratie où l'opinion publique peut imposer des changements. C'est un royaume dont Jésus est le seul roi. Quand l'apôtre Paul écrivait de la silence des femmes dans les assemblées, il a précisé « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Les églises de nos jours qui trouvent des arguments pour mettre de côté les commandements du Seigneur ont tort de s'éloigner du modèle biblique. Si nous voulons être véritablement l'Église que Jésus a bâtie, nous nous soumettrons à son autorité dans cette affaire comme dans toute autre.